Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je sais que il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui sont humanistes, qui pensent à la protection des animaux, qui pensent à la protection des humains, qui voient bien les problèmes qu'on commence à devoir affronter, que ce soit écologique ou autre. Et en fait, aujourd'hui, je reçois Marion Moreau, qui est la fondatrice de la fondation Sigfox, et qui va nous expliquer comment l'Internet des objets peut résoudre ou peut aider à résoudre une partie de ces problématiques. Donc c'est une conversation hyper intéressante, en particulier si vous savez pas ce que c'est que les objets connectés, donc c'est de la technologie évidemment. Vous allez voir comment ça peut aider, c'est franchement intéressant. Donc voilà, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis avec Marion Moreau. Marion, on se connaît depuis un petit moment sur French Web, mais tu es aujourd'hui la directrice, la fondatrice de la fondation de Sigfox. Et Sigfox, c'est l'Internet des objets, et on va parler de la manière dont l'Internet peut sauver des animaux en voie de disparition, mais aussi des humains. Et je trouve ça hyper intéressant de voir, parce qu'en fait, souvent, on fait pas forcément la connexion. Alors, on peut imaginer les téléphones portables, etc. L'Internet des objets, c'est quelque chose qui est un peu moins connu, je pense, par les gens. Alors d'abord, on va commencer par là. C'est quoi l'Internet des objets ?
C'est quoi l'Internet des objets ? L'Internet des objets, c'est... Alors si je donne une définition très personnelle, pour moi, ouais. c'est une nouvelle révolution dans l'interaction avec nos environnements. Mm-hmm. Moi, j'ai eu la chance de connaître l'Internet des années 2000, même 98, un peu avant. Et on a connu, toi aussi, bien sûr, la
Oui, je suis vieux. C'est ça que
Mais
tu
non,
veux dire.
Mais non, pas vieux. Le mobile, c'est plus récent. C'est plus récent. Le mobile, les applications, etc. Mais il y a une troisième vague, en fait, qui s'annonce, qui est comment, finalement, un peu à l'instar de finalement du social media, avec la puissance du social media, finalement, comment, à l'aide de capteurs qui, aujourd'hui, sont prêts à durer très, très longtemps, sont prêts à mesurer toutes sortes de choses de façon totalement automatisée, finalement, on est en train de vivre une troisième révolution. Qui est comment on interagit avec nos environnements de façon quasiment naturelle, parce qu'on fait parler le monde physique autour de nous.
Donc ça va être des capteurs sur quoi, par exemple, sur des arbres, sur...
Tout ce qu'on peut mesurer du monde physique, en fait. Quand on parle de l'Internet des objets, je préférais effectivement retenir le mot Internet parce qu'on parle de la donnée. Mais les objets, c'est tous les capteurs qui peuvent mesurer des choses. Donc ça va être de la vibration, du mouvement, la température, tout ce qu'on peut faire parler aujourd'hui. Et nous, chez Sigfox, on utilise ça pour, évidemment, des enjeux extrêmement gros pour les industriels. Les contours d'eau, qu'est-ce qui se passe sous le sol, que se passe-t-il effectivement, comment traquer des containers dans le monde entier. Ça, c'est des choses qui intéressent beaucoup à la fois les industriels, mais aussi ceux qui sont un peu défenseurs de business plus sustainable, je dirais.
Ouais, d'accord.
Comment est-ce que finalement on arrive à mutualiser tout ce qui est relève de l'intervention de l'homme. Et sur la fondation, on utilise ça pour essayer de préserver des vies, comme tu disais.
Et alors, c'est la partie qui m'intéresse le plus, évidemment. Comment vous faites pour sauver... On va commencer par les animaux avant les vies humaines, mais qu'est-ce que vous faites pour sauver des animaux en voie de disparition ?
Alors, sur la protection, on a commencé par la protection des rhinocéros.
Ouais.
Donc, les rhinocéros, c'est 27 000 seulement encore vivants dans le monde. C'est un enjeu qui concerne aussi d'autres espèces. Tu l'as entendu, les espèces sont en danger. Malheureusement, ça fait les gros titres, mais je peux te dire que pour me pencher sur le sujet maintenant depuis 2 ans et demi, et ça me touchait déjà avant, maintenant ça, je m'en suis emparée de ce sujet-là et je constate très concrètement que oui, nos enfants, tes enfants, tes petits-enfants ne connaîtront jamais les rhinocéros. C'est probablement malheureusement ce qui va se passer. Donc c'est catastrophique.
C'est heureux,
et je suis désolée d'être grave et dramatique, mais il se passe des choses qui s'accélèrent malheureusement. Alors les rhinocéros, pourquoi ? Parce que leur corne est très convoitée par la Chine et le Vietnam, pour des vertus qu'on lui prête qui sont totalement fausses, mais ça fait partie des légendes du côté de l'Asie. C'est dans leur culture de croire à beaucoup de légendes, notamment de guérison de certaines maladies comme le cancer, etc. Et la poudre de corne, beaucoup de Chinois, beaucoup de Vietnamiens pensent effectivement que ça guérit des cancers, ça guérit d'insuffisance sexuelle, d'incapacité humaine, etc. Bon, on peut pas leur en vouloir, ça fait partie de leur culture, mais il n'empêche que c'est aujourd'hui un enjeu dramatique. D'abord parce que les rhinocéros se font massacrer. Il y a un an et demi, à Thoiry, c'est-à-dire à 20 km de Paris, Il y a un gang qui a pénétré dans le zoo. C'est la première fois en Europe qu'on massacre à la Kalachnikov un rhinocéros vivant dans un zoo tranquille pour lui enlever sa corne. Donc c'est te dire jusqu'à quel point en fait ça va. Mais l'autre enjeu qui nous intéresse, et c'est pourquoi on essaie de courir très vite pour amener ce qu'on peut avec la technologie, c'est que des rangers aujourd'hui, tous ceux qui pratiquent leur métier, tous les acteurs de la conservation partout, sont en panique parce qu'ils croisent ils croisent la menace tous les jours en fait. Ils croisent des gens en armes, des mafias qui sont très puissantes et qui veulent aujourd'hui massacrer les rhinocéros pour leurs cornes. Alors pour te répondre plus concrètement, qu'est-ce que l'Internet des objets et a priori notre fondation amène là-dessus? C'est tout simplement de localiser beaucoup mieux qu'avant l'animal. Alors c'est énorme en termes d'impact parce que permettre de suivre un rhinocéros à distance 3 fois par jour, sans l'embêter parce que le capteur dure plusieurs années sans qu'on y touche, c'est déjà beaucoup. Les braconniers aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à savoir où sont les rhinocéros en l'occurrence. Et nous, c'est l'information ultra sécurisée qu'on amène aux rangers aujourd'hui. Ce qu'on a développé, c'est très simple. Évidemment, on a amené le réseau Sigfox, on a amené 3 antennes Sigfox qui sont grandes comme une bouteille, hein, qui couvrent toute la réserve, 5000 km². On les a plantées discrètement et on a prototypé des petits capteurs grands comme un pouce que les vétérinaires ont posés dans la corne de 40 rhinocéros. Et on a créé ce qu'on appellerait, pour vous donner une idée, un Google Maps que les rangers consultent tous les jours pour savoir où ils sont, comment ils se déplacent et s'ils prennent un risque par rapport à leur mouvement, le fait qu'ils s'approchent d'une clôture, etc. Et pour terminer là-dessus, on est capable, nous, de transformer un point GPS en une alerte SMS. Si le rhinocéros s'approche trop près d'une clôture, on le sait, il prend un risque de croiser un braconnier. Et nous, on est capable, dans le cloud, d'envoyer une notification au rangers pour lui dire « Attention, là, il prend un risque, il faut envoyer une patrouille pour essayer de le protéger au maximum. » Voilà ce qu'on fait sur le terrain depuis 2 ans. Et on a vocation à ouvrir la solution sur Internet pour le mois de mars prochain. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de réserves sont intéressées par ce qu'on a développé. Et je peux te dire que c'était des bouts de ficelle, hein, des bouts de câbles.
J'imagine,
Mais ça marche. Ça marche très, très bien. Et on va rendre cette solution dans
le patrimoine. Et ça coûte cher à mettre en place
Alors, le capteur en tant que tel vaut 20 dollars. Donc, c'est vraiment rien du tout pour 3 ans de durée de vie de batterie. Ce qui coûte cher, c'est les opérations. C'est-à-dire qu'il faut survoler la réserve avec un hélico, faire appel à des vétérinaires. Ça, c'est des opérations qui sont un peu lourdes. Mais bon, il y a une telle urgence.
Du coup, c'est ce que prend la Fondation, en fait.
Non, la Fondation, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est de la R&D. Donc, on amène le réseau gratuitement, on prototype tout. Et c'est l'ONG qui supporte, elle, le coût des opérations.
D'accord. Et tu m'avais dit aussi, vous avez aussi mis des capteurs sur les grilles.
Oui, parce qu'en fait, une fois qu'on a le réseau Sigfox, pour ceux qui ont un peu compris ou connaissent un peu, autant plugger le plus de devices, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire d'objets possible. Et ce qu'on s'est dit, c'est que puisque le réseau est là, là où il y a, je répète, aucun réseau.
T'es dans
le sud du Zimbabwe. Il y a pas de 3G, il y a pas de 2G, il y a même pas de edge. Il y a rien, rien, zéro. Mais une fois que le réseau est là, il doit servir à plein d'autres choses. Et donc, ce qu'on a envoyé, c'est 100 d'autres objets qui sont, d'autres trackers, comme on dit, donc pour traquer, par exemple, mettre dans la veste des rangers pour qu'ils facilitent un petit peu leurs opérations et leurs flux, mais aussi des capteurs sur les clôtures, sur des barrières, qui dorment et se réveillent seulement quand il se passe quelque chose. D'où la durée de vie de la maintenance qui n'est pas nécessaire, en fait.
Et donc, voilà, si quelqu'un touche la barrière, par exemple, un braconnier.
Et si quelqu'un touche la barrière, on enverra une notification qui dit quelqu'un a touché la barrière.
À cet endroit-là.
À cet endroit-là.
Ça, c'est chouette. Et du coup, pourquoi aujourd'hui c'est que les rhinocéros? Ça se développe parce que tu parlais de assez peu d'animaux finalement. Enfin, c'est tout relatif, mais par rapport à l'urgence. Est-ce que vous envisagez de le développer sur d'autres animaux? Après, c'est des capteurs, on ne peut pas les mettre partout. J'imagine que sur un lion, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Mais.
Oui, alors, c'est une bonne question. En fait, on a vocation à adresser des causes globales. C'est un peu arrogant de dire ça, mais en fait, l'Internet des objets, parce que c'est moins contraignant que les autres technologies, ça fait appel à des réseaux très bas débit, c'est plus facile, en fait, de le voir à l'échelle. Et ce qu'on a prévu, nous, typiquement dans le cas des rhinocéros, c'est on va passer à la version, on va dire la V2 de ce capteur de cornes, qui est optimisé pour d'autres espèces. C'est-à-dire qu'on sait demain que l'intelligence embarquée de ce capteur est designable sur un collier, sur un bracelet, sur un tag.
D'accord.
Et donc, quand je disais qu'au mois de mars, on allait ouvrir la solution, c'est aussi pour adresser d'autres urgences sur d'autres animaux qui sont en voie de disparition ou d'extinction. Et on est déjà contacté par des différentes ONG sur d'autres espèces comme Save the Elephants, Jane Goodall Institute, qui s'intéresse de très près à nos travaux. Comme les orang-outans qui sont réintroduits dans la jungle de Sumatra. Et eux, ça les intéresse beaucoup parce qu'en fait, traquer une petite population d'orang-outans quand ils reviennent dans la jungle est extrêmement important pour les acteurs de la conservation parce qu'on sait à peu près comment ils se comportent au travers de leurs mouvements et c'est visiblement assez demandé. Donc on va le faire pour l'année prochaine. Ouais.
D'accord, génial. Et alors du coup, vous réfléchissez aussi aux vies humaines, tu parlais du Mexique.
Oui.
En particulier sur les tremblements de terre. Et comment ça peut avoir un impact sur les tremblements de terre? Du coup, comment ça peut sauver des vies, surtout?
Ouais, c'est vrai que c'est difficile de faire un lien entre l'Internet des objets et la préservation des vies, je te l'accorde. Mais en fait, je vais expliquer juste l'anecdote. Juan Carlos, qui travaille avec moi, est mexicain. Il me dit, écoute, mon frère est séismologue. Il travaille à l'Agence nationale de séismologie, qui centralise toutes les vibrations sismiques du pays. Et je lui dis ok, c'est intéressant. Il me dit surtout, il a compris ce que peut amener l'Internet des objets au regard du danger que représentent les séismes aujourd'hui. On est allé là-bas, on a passé 15 jours avec les séismologues justement, et puis tous les acteurs de l'alerte au Mexique qui ont déjà des solutions. Hein. Le Mexique est déjà alerté en cas de...
J'imagine.
Voilà. Par contre, on a fait un constat qui va te répondre un peu à ta question. C'est que pour écouter, tiens-toi bien, tout le pays, toutes les vibrations du pays, il n'y a que 100 balises sismiques. C'est tout.
Peanuts, ouais.
Et donc, qu'est-ce qu'amène l'Internet des objets? Ben, le fait de densifier des capteurs à pas cher, très simples, pas compliqués du tout, qui parlent seulement quand ils ont besoin de parler et qui s'endorment le reste du temps. Et en fait, l'idée sur ce projet-là que j'ai appelé Seconds to Save Lives, c'est de faire gagner des secondes aux Mexicains en produisant une alerte plus tôt qu'auparavant parce qu'on aura densifié des capteurs sur le pays et à des endroits évidemment précis, avec un GPS évidemment dans le capteur qui permettra d'alerter la bonne population au bon moment et surtout aux Mexicains de sortir, de courir dans la rue. L'année dernière, au mois de septembre, au Mexique, c'était quand même encore 400 morts. Hein.
Ouais, bah, non, mais c'est... Et puis c'est partout dans le monde et ça va s'accélérer malheureusement, j'ai l'impression.
Exactement. Et donc, c'est pour ça que je disais dès le début, l'Internet des objets, c'est surtout une... on parle depuis longtemps de big data, mais on est là-dedans. Ouais, on est dans un volume de données incrémental qui est gigantesque parce qu'on a la capacité d'aller extraire cette donnée de façon plus volumineuse et plus rapide. Et c'est ça qui est aujourd'hui intéressant au regard de causes que moi je défends et je vais chercher même les plus difficiles. Hein, je pourrais te parler de l'Antarctique et de l'Arctique aussi.
Ouais.
C'est des causes qui a priori on se dit mais c'est pas possible de faire ça, comment ils font ça? Mais oui, sauf qu'en fait comme on est Sigfox est un extracteur de données, cette donnée-là elle parle. Et elle alerte, elle prévient, elle est utile pareil sur des scénarios prédictifs. Je travaille aussi avec des acteurs de l'IA, l'intelligence artificielle, pour une fois qu'on leur donne un jeu de données important, eux ils sont capables derrière de scénariser des algorithmes qui ont pour but de préserver des vies. C'est ça l'enjeu.
Et alors du coup, comment ça fonctionne par exemple pour les tsunamis? Est-ce que c'est possible aussi? Tu peux pas mettre un capteur sur la mer? C'est sûr que non.
Mais... C'est vrai que la mer, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de magie là-dedans. Tout est une question de notre planète, des contraintes liées à la Terre, c'est sûr. Après, les tsunamis, c'est... si on regarde vraiment de près, ne soyons pas dans le fantasme. Pour en avoir beaucoup discuté avec des gens qui connaissent très bien le sujet, notamment Gaël Musquet, que peut-être tu connais, qui est un hacker qui s'intéresse au sujet, que je te recommande de rencontrer. C'est en fait les animaux qu'il faut suivre.
D'accord.
Parce que ceux qui peut-être qui nous écoutent le savent, quand il y a une alerte comme ça, quand il y a une catastrophe naturelle qui se réveille, souvent les animaux ont un comportement atypique. Et sans ce comportement atypique, on pourrait mieux l'analyser. D'ailleurs, les paysans, les Indonésiens, tous ceux qui sont confrontés ne nous ont pas attendus là-dessus. Donc la techno serait vue différemment sur cet enjeu.
Donc tu pourrais mettre par exemple des capteurs sur les oiseaux et alerter directement tout le monde sur son téléphone. Quoi.
Exactement.
J'imagine que c'est ça.
Tout à fait, ça c'est possible. Ouais, tout à fait.
D'accord. Et pour l'Arctique, alors comment ça fonctionne pour les pôles? Parce que pour le coup, je vois pas.
En fait, il y a pas de réseau en fait disponible sur les pôles.
Heureusement.
D'ailleurs, voilà, heureusement quelque part, c'est pas plus mal. En fait, j'ai contacté avec une start-up avec qui je travaille, qui fait de l'objet, puisque moi, j'avais besoin de sa compréhension là-dessus, qui me dit, écoute, on a un contact possible avec la Belgique, il y a une station polaire, d'ailleurs, en complètement zéro émission de CO2, hyper très développement durable, et qui est intéressée pour accueillir le réseau Sigfox et essayer de résoudre des problématiques du quotidien. Donc c'est ce qu'on a fait il y a trois ans maintenant. On a envoyé une station, une petite antenne Sigfox qu'on a mis tout en haut de la station polaire. Alors je dis on, je n'y suis pas allée, hein, j'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu encore cette chance. C'est compliqué d'aller là-bas. Mais par contre, elle a été installée et elle a permis tout simplement de connecter les petits objets posés dans la veste, là encore, des chercheurs qui vont opérer des opérations de recherche pendant plusieurs jours autour de leur base. Et en fait, ils n'ont qu'un moyen de communiquer avec les autres, c'est un téléphone satellitaire. Et c'est compliqué parce que le téléphone satellitaire, c'est très, très, très coûteux. Donc, quand tu prends ton téléphone là-bas en Antarctique, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Or, si on amène, nous, et c'est ce qu'on a fait, la capacité à la station de pouvoir savoir exactement où ils sont, comment ils se déplacent, est-ce qu'ils se reviennent bien à tel endroit, à tel point, c'est déjà sécuriser finalement tout leur déplacement.
D'accord.
Et c'est ça ce qu'on a fait en Antarctique et on le fait maintenant depuis très peu de temps en Arctique.
D'accord.
Et en fait, l'enjeu est au-delà de la sécurité des chercheurs sur le climat, qui est importante au regard des enjeux du changement climatique, au-delà de la portée de la sécurité, des moyens de sécurité simples, c'est d'être un support à la science. Parce que quand je disais qu'on peut finalement relever de la donnée du monde physique plus facilement aujourd'hui, de façon moins coûteuse et en respectant la planète aussi, les ondes radio, c'est très neutre en fait, l'impact est très neutre. Eh ben autant l'utiliser justement pour relever de la donnée température, vibration, le vent, toutes ces données là en Antarctique et en Arctique, elles sont clés.
Le mouvement de la glace peut-être. Le
mouvement de la glace exactement. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont des moyens un peu lourds pour le faire qui marchent très bien mais qui sont encore un peu lourds, là où nous on leur dit finalement utiliser de simples petits capteurs, voilà, pas cher du tout, encore une fois qui s'endorment, qui se réveillent mais qui vous amènent qui enrichissent vos bases de données existantes. C'est ça qu'on veut faire.
Waouh. C'est énorme. C'est vraiment intéressant parce que je pense que, bon, comme on disait au tout début, je pense que tout le monde connaît pas l'Internet des objets. En plus, on a l'impression que on parle beaucoup de cette vie privée, donc on a toujours tendance à penser que l'Internet des objets, c'est encore plus de flicage, c'est Big Brother qu'on invite chez soi, etc., etc. On pense pas nécessairement au côté positif aussi. Et j'aime bien l'idée que ce podcast reste positif autant qu'il puisse, même si on parle de la disparition de certaines espèces animales, voire...
Oui, mais il y a de l'espoir.
Mais il y a de l'espoir.
Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'on parle beaucoup de tracking dans l'Internet des objets. Donc le tracking, est-ce qu'on en a envie, effectivement? Mais finalement, ce qu'on a dans la poche tous les jours est déjà un tracker. Ouais. Moi, ma vision des choses, c'est de le voir évidemment sur le plus impactant possible. C'est d'accélérer le plus vite possible le fait de résoudre des problèmes avec ces technologies qui sont maintenant à la portée quasiment de tous. Et c'est d'orienter aussi le chemin de Sigfox qui est aujourd'hui une boîte qui devient mondiale à partir de la France, qui est dans 50 pays aujourd'hui, qui va terminer la couverture du globe total l'année prochaine. Tout ça en 6 ans, c'est d'accompagner son chemin d'être un leader mondial dans ce secteur de l'Internet des objets, mais avec un ADN très tourné vers les autres. Mmh. On fait pas n'importe quoi avec les données. Et si possible, on est utile sur des causes qui sont urgentes. Et je trouve ça très chouette parce que c'est une initiative de Ludovic et Christophe, les fondateurs. C'est eux qui ont mis personnellement de leur petite poche un peu d'argent pour m'aider à monter ça, et ça marche et c'est super, c'est vraiment ça inspire aussi d'autres startups, ce qui est très bien, parce qu'en fait avec très peu de moyens on peut faire beaucoup beaucoup de choses. Ça inspire des startups comme Lydia, ça inspire des startups comme Blablacar, comme Criteo, et si on est tous ensemble à faire des petites choses, ça rappelle le moment des colibris finalement.
C'est ça. C'est le battement d'aile d'un papillon.
Ouais, aussi, ouais, tout à fait. Ouais.
Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement c'est comment la technologie peut aider. On peut imaginer que les changements climatiques, on peut imaginer les ours, tu sais, dans les Pyrénées, on peut imaginer les ours polaires aussi. Il y a beaucoup de problèmes avec les ours polaires, malheureusement pour la nourriture. Donc en fait, on peut l'envisager pour plein de choses. Est-ce que vous avez envisagé encore d'autres pistes de ce côté-là ou... Pour l'instant, c'est là où vous en êtes.
On est submergé de demandes.
Oui, j'imagine.
Submergé. C'est Mais pour le coup, on a un accès maintenant avec énormément d'ONG, avec des typologies très différentes, hein, sur l'humain, sur les catastrophes naturelles, etc. Mmh. Ou d'autres.
On pourrait penser aux réfugiés aussi, d'ailleurs.
Aux réfugiés, exactement. Maintenant, moi, je veux faire les choses avec mon équipe d'ingénieurs. On est quasiment que des équipes, qu'une équipe d'ingénieurs et beaucoup de filles, ce qui est très bien. Beaucoup de filles nous ont rejoints. On veut faire les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire que, encore une fois, comme l'idée et la vision est de d'adresser des causes mondiales globales, c'est-à-dire on fait pas un réno, mais le plus de réno possible, parce que c'est utile de le faire. Et ce sera pas tous, évidemment, mais parce que c'est utile de les sauver. Alors oui, il faut leur mettre un capteur dans la corne, ça peut être triste, mais si c'est ça qui les préserve...
C'est un tout petit capteur. Enfin bon,
ah, c'est un tout petit
capteur. Ça reste un capteur.
Ah mais il est pas mal, puisqu'en fait, dans la corne, c'est de l'ongle, hein, donc on lui pose dedans, on le rebouche avec une résine naturelle et basta, c'est tout. Et on n'y touche plus pendant plusieurs années. Mais oui, il faut passer par là, malheureusement, parce que l'homme est tellement idiot que, et à un moment donné, c'est la techno qui vient au secours de notre parfois stupidité. Mais voilà. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est moi, je veux aller au bout de cette mission-là. Une fois qu'on a ouvert la solution à n'importe quelle ONG pour qu'elle la reprenne, pour justement protection des tigres, peut-être des ours polaires, si ça peut les protéger, on aura achevé notre première mission. Et le Mexique est le deuxième gros projet parce que moi, j'ai très envie d'aider le Mexique et les autres populations qui font face en fait au séisme. Et on aura appris beaucoup de choses en fait si on fait ça. On peut pas, on est petit, je cherche des fonds pour développer tous ces projets, j'en profite pour passer le message. Et on n'a pas besoin de centaines de millions non plus, mais on a besoin d'aide parce que j'ai besoin de recruter des ingénieurs. Si je recrute des ingénieurs, c'est plus de prototypes, c'est accélérer cette recherche et développement, c'est adresser plus de causes, et on pourrait imaginer demain aller sur d'autres types de causes comme justement le fait d'avoir un capteur sur chaque fenêtre à Paris et dans plusieurs villes pour mesurer l'air. Le capteur d'air, c'est quelque chose qui est tout à fait jouable dans son volume, et ça amènerait, je pense, beaucoup de choses. On pourrait aller sur d'autres causes comme nous, ce qu'on s'est donné, c'est l'environnement, la planète, protection des vies au sens large et des animaux. Après, voilà, tu peux imaginer le nombre infini de
besoins. Et du coup, d'ailleurs, si le rhino se fait tuer quand même et qu'il coupe la corne, vous aurez le capteur dans la corne, donc vous pourrez savoir où il est, en fait, dans l'absolu.
Si on a disponibilité du réseau global, oui.
Ouais, c'est ça. Faut pas que ça aille trop vite, trop loin, quoi. Mais...
S'il arrive dans une certaine ville de Chine qu'on est en train de couvrir et que ça bip dans l'aéroport, ça pourrait être le cas, oui.
Effectivement. C'est intéressant aussi.
Oui, c'est... Disons qu'on va embêter un peu de monde, là, pour
c'est
le coup.
Ça, exactement. Et alors, ce podcast s'appelle VLAN, donc je voudrais savoir à quoi tu voudrais claquer la porte.
À quoi je voudrais claquer la porte ? Je voudrais claquer la porte à peut-être à une forme de peur sur la technologie. Je pense qu'on l'a un peu abordé, mais il y a de la passion derrière la techno. Toi, t'es un passionné, Greg. Ça fait longtemps qu'on se connaît. T'es passionné par ça. T'as fait ta story. T'es toujours sur. Non, mais c'est vrai. Mais derrière, il y a quoi ? Il y a du sens à trouver, en fait. Et donc, je croise encore beaucoup de gens. Je lis. Et pourtant, j'aime ce bonhomme parce qu'il a fait des choses que j'apprécie, comme Laurent Alexandre, mais qui interpelle avec beaucoup d'angoisse. Donc, je voudrais qu'on arrête cette angoisse. Qu'on lit trop, soit dans les médias, soit au travers de gens qui nous interpellent, parfois à juste titre, mais qu'on se libère un petit peu en se disant, mais finalement, en fait, on a tout pour réussir. Et particulièrement en France, on a des talents, on a des gens qui réfléchissent, on a une éthique en nous. C'est ce que je dis souvent et c'est ce que je pense. La France et l'Europe ont un rôle à jouer extrêmement important dans les années qui viennent.
Oui, sur l'éthique.
Parce que c'est nous qui avons... On a créé l'humanitaire. C'est nous qui avons créé l'association, c'est nous qui avons créé la sécurité sociale, c'est dans nos gènes. Et donc la technologie, comme elle est portée parmi les meilleurs au monde, et je pense pas me tromper là-dessus, il y a pas d'arrogance, c'est nous qui produisons les meilleurs matheux au monde, peut-être avec d'autres, avec les Indiens, avec certains, mais quand même on a des vrais talents. Alors finalement voilà, et tous les jeunes aujourd'hui qui viennent nous voir chez Sigfox ou à la Fondation sont des gens en quête de sens. Ils sont pas là pour ils pourraient être ailleurs. Ils pourraient être ailleurs pour d'autres raisons. Mais ils viennent là parce qu'il y a un supplément d'âme. Mmh. Il y a quelque chose qui nous drive différemment. Et donc, c'est ça, je pense qu'il faut stopper cette espèce d'angoisse dont on va se faire manger par les Américains, les Chinois, etc. Non, on a une autre voie à ouvrir. Mmh. Et en plus, elle est belle parce que je pense qu'on va vivre probablement une décennie ou deux décennies là. On risque fort de résoudre des grandes problématiques. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, je ne sais pas si tu l'as vu, probablement que oui, avait fait un sommet Tech for Good en invitant les géants de la planète de la tech à l'Élysée. Mais c'est pas qu'un symbole. Moi, je comprends très bien sa démarche. C'est que lui-même, je pense qu'il est convaincu, comme d'autres, comme nous, comme plein de gens qui portent ces projets-là et qui incarnent la tech française, qu'en fait, mais bien sûr qu'on a tout, on a tout entre les mains. Il faut juste essayer de travailler dans une intelligence collective, une envie d'amener les grands acteurs avec nous, dans les embarquer dans une vraie résolution de problèmes. Et peut-être, oui, on va résoudre des problématiques de chômage, on va avancer sur le changement climatique et essayer de prévoir ce qui va nous arriver. Moi, j'y crois beaucoup. Donc, j'ai pas peur du tout des années qui viennent. J'ai pas peur non plus des débats sur la privacy, les données, etc. Parce que moi, je fais confiance à l'homme. Je suis purement une humaniste. Je pense qu'on a aujourd'hui de quoi réfléchir. On a des cerveaux plutôt bien faits. Et on va produire des enfants qui seront aussi des têtes bien faites. Donc, je suis très optimiste.
Ok, super. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Greg.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.